11h30, Jean-François Baudin, Infomag.
Nous sommes lundi et vous retrouverez dans ce journal, comme chaque lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Émotion après une nouvelle attaque mortelle de requins. La victime était un précurseur dans la pratique du foil en Calédonie. Une météo très humide aujourd'hui. L'ensemble du territoire est en vigilance orange, forte pluie, orage, excepté Nouméa, les Loyautés et l'île des Pins en vigilance jaune. En métropole, les répercussions diplomatiques de l'affaire de la mort de Quentin. L'ambassadeur des USA en France est convoqué par le Quai d'Orsay. Et puis demain, cela fera 4 ans jour pour jour que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. 4 ans de guerre et un quotidien qui reste difficile pour les Ukrainiens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera comme chaque lundi avec le magazine des sports. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous ferons un bilan complet de l'actualité sportive sur la scène nationale, internationale et calédonienne, bien sûr, en commençant par la fin des JO. Rideau sur cette belle aventure pour les métropolitains.
Exactement, la fin des Jeux de Milan-Cortina et l'annonce déjà des prochains JO des Alpes françaises. Les Bleus qui terminent cette 25e édition sur un bilan positif, une 6e place au classement des médailles, mais surtout un total de 23 médailles, dont 8 en or. Grâce notamment au biathlon où les tricolores se sont largement illustrés avec pas moins de 13 podiums.
En rugby, les Français continuent leur sans faute dans le tournoi des 6 nations.
Le 15 de France sur la voie du Grand Chelem. Après sa victoire face à l'Italie 33-8, les tricolores sont en tête du classement. Dans 2 semaines, les Bleus croiseront le fer avec les Écossais pour l'avant-dernière journée du tournoi. Ils pourraient déjà mathématiquement remporter la compétition.
Et puis sur le territoire, nous évoquerons le premier tournoi de squash de la saison. Ce sera à partir de ce soir.
À partir de demain soir, plus exactement, fin des inscriptions ce soir, l'Olympique de Nouméa qui organise en effet l'Open d'ouverture à la salle Picou. Les joueuses et les joueurs qui vont se retrouver pour lancer l'année. Pour en parler, nous recevrons Thibaut Boursy, le président de la section squash du club de l'Olympique de Nouméa.
Le magazine des sports, rendez-vous du lundi midi. L'autre rendez-vous, c'est évidemment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Encore une fois, la Nouvelle-Calédonie se retrouve dans une situation inextricable dont on se demande comment elle pourra en sortir. À la veille de l'examen par le Sénat du projet de loi constitutionnelle qui doit inscrire l'accord de Bougival et son accord complémentaire dans la Constitution, c'est l'incertitude la plus complète. Et chacun peut jouer les prophètes de malheur ou les oiseaux de mauvais augure. Personne, à l'heure actuelle, n'est capable de dire si le texte pourra aller au bout du processus parlementaire. Les anti-Bougival ont déjà enterré l'accord du 12 juillet et ils affirment avec gourmandise que la réforme constitutionnelle est dans l'impasse, qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale et que la majorité des 3/5 sera inatteignable au congrès du Parlement à Versailles. À l'inverse, les pro-Bougival ne veulent pas renoncer. Ils assurent que c'est jouable et qu'ils vont aller convaincre les parlementaires un par un. Mais il est clair que ce n'est pas gagné et que le pavé dans la mare, sous forme de tribune publiée par le journal Le Monde, jetée par les socialistes, n'a pas éclairci le débat. Mais même les plus fins exégètes de la pensée socialiste sont perplexes, parce que si la première lecture laisse entendre que les parlementaires socialistes ne voteront pas le texte, les choses sont moins simples qu'il n'y paraît. Le leader du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, signataire de la tribune, déclare ainsi le lendemain à la ministre des Outre-mer qu'un rejet du projet de loi constitutionnel par le Parlement anéantirait le travail patient de concession réciproque et d'esprit de consensus porté par ceux qui ont permis la signature de Bougival. Et il ajoute que cet accord reste le socle de référence pour les discussions à venir. Les socialistes ne rejettent donc pas Bougival, même s'ils le trouvent en l'état lourd de menaces et de dangers. Sans doute vont-ils tenter d'amender le texte et peut-être vont-ils s'abstenir plutôt que de voter contre. Les socialistes ne semblent d'ailleurs pas dupes de l'attitude du nouveau FLNKS. Ils réclament un accord consensuel et inclusif et ils estiment qu'il n'est pas possible de laisser le FLNKS en dehors de cet accord. Mais ils reconnaissent que l'UC mène la politique de la chaise vide et cela les embarrasse. Surtout qu'ils ont aussi des proximités avec l'UNI qui leur tient un tout autre discours que celui de Christian Théin, Emmanuel Thibault, Robert Rowy et Michael Forest. La délégation FLNKS qui fait la tournée des Grands Ducs à Paris, où partout, curieusement, on lui déroule le tapis rouge. Pour concilier leur soutien à Bougival et le refus en l'état du texte constitutionnel, les socialistes réclament un nouveau calendrier, avec des élections dès le mois de juin, pour rouvrir ensuite les discussions. Comme si c'était la panacée, comme si cela pouvait convaincre le nouveau FLNKS de participer à des négociations dont Bougival resterait le socle de référence. sans compter que des élections provinciales avant la réforme constitutionnelle se dérouleraient avec un corps électoral gelé, une situation inacceptable pour les partisans de la France. Nous nous retrouvons donc une fois de plus dans un imbroglio indescriptible que personne à la vérité n'est capable de démêler. Dans ce contexte, les prochaines municipales s'annoncent très politiques. Le président de l'Union calédonienne n'en fait pas mystère. Il indique que l'enjeu sera de souscrire au projet de société qui sera porté par les candidats FLNKS. Le face-à-face des listes UC et UNI dans la plupart des communes sera à ce titre très instructif. D'autant plus que c'est pratiquement inédit dans les communes de l'agglomération et que les indépendantistes, malgré leurs éternelles divisions, savent en général faire l'unité pour les élections. C'est au moins l'un des acquis de Bougival, d'avoir fait voler cette unité en éclats.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez évidemment sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter cet après-midi, c'est juste après notre flash à 16h. Revenons maintenant sur ce drame qui a eu lieu ce week-end. Un homme a perdu la vie hier après avoir été attaqué par un requin. La victime, pratiquante de sport de glisse aquatique, était précurseur notamment en wingfoil et son décès, Charlotte Coulson, attriste toute la communauté pratiquant ces disciplines.
Oui, il n'y avait pas eu d'attaque mortelle depuis 2025. C'était à Kumak qu'un plongeur perdait la vie après une morsure. À Lansvata, la dernière victime était un touriste australien mort en février 2023. C'était avant l'installation des filets de protection. L'événement dramatique de ce week-end replonge donc la population dans le doute. Hier, en fin de journée, un plaisancier a découvert un corps près de l'île aux Canards et a alerté les secours. Très vite mobilisés, les pompiers sont arrivés vers 18h à la plage du Château Royal. Sur place, ils n'ont malheureusement rien pu faire, si ce n'est constater le décès. La capitaine Bourgoin est intervenue sur place.
C'est un drame. Nous avons été appelés vers 17h30. Un bateau de particuliers qui était sur zone a vu un corps inanimé dans l'eau, un corps d'un monsieur qui pratique le wingfoil. Donc sans doute une attaque requin quand on est appelé et ce qui est confirmé quand on se rend sur les lieux. C'est les secours qui ont ramené le corps sur la plage et qui était déjà décédé à notre arrivée et au moment de l'appel également.
Et ce matin, le parquet a communiqué sur les circonstances de la mort. La victime présentait d'importantes blessures sur la jambe droite, le tibia gauche et le bras droit. Des traces de morsures ont été observées sur sa planche. L'attaque de requin ne fait donc presque aucun doute. La nouvelle choque la communauté de kitesurfers et de wingfoilers. Médecin urgentiste de 55 ans, père de 5 enfants, l'homme était connu notamment pour avoir importé la pratique du foil en Nouvelle-Calédonie. Vincent Despati, du magasin spécialisé Vacarme et ami de la victime, témoigne.
Cyril était ce qu'on peut appeler communément le GOAT du foil, c'est-à-dire que c'est lui qui a mis tout le monde au foil. En 2010, il a importé le premier foil et c'est lui qui a mis tout le monde. Samedi, il est passé au magasin, on en a discuté longtemps et débattu. Du risque requin, du fait qu'effectivement, quand il y a beaucoup de pluie, il faut laisser un petit peu de temps avant de retourner à l'eau. 24-48 heures, on risque pas grand-chose à laisser passer ce temps-là. Énormément de personnes me font des retours et c'est vrai que c'est un gros choc pour la communauté. Tous ceux qui le connaissent sont abasourdis.
Effectivement, le drame aurait-il pu être évité car les conditions météo n'étaient pas favorables hier à une sortie en mer. L'accident est survenu en fin de journée et après de fortes pluies, des conditions plus propices à une attaque de squale selon Claude Maillot, médecin généraliste et spécialiste de la faune marine dangereuse.
Lorsque l'eau est trouble, très souvent, c'est de l'eau de pluie, donc elle est chargée de tout un tas de particules odorantes. Les rejets pluviaux drainent des particules organiques qui sont chimiquement attractives pour certaines espèces de requins. Et ensuite, parce que ça donne également aux requins une supériorité sensorielle. Le requin a besoin de pouvoir approcher sans être vu. C'est d'autant plus facile dans une mer trouble, donc il est plus à son avantage.
Et puis la pratique de foil est-elle aussi à risque? Le wingfoil, c'est un peu comme le kitesurf, mais un aileron permet à la planche de décoller avec l'aide d'une petite voile. Si le sport n'est pas dangereux en lui-même, il requiert des conditions de pratique qui peuvent être à risque. Vincent Despati.
Alors en fait, le kite, du fait de la planche qui a des tout petits ailerons de 4 cm, on va pouvoir le pratiquer dans très peu d'eau. Donc on peut aller à Ricaudi, on peut aller à l'île-aux-maîtres, alors que le foil nécessite en fait un minimum d'un mètre d'eau, voire 1,50 m pour pouvoir avoir cette dérive qui est placée sous la planche et pas taper le sable ou le corail. Donc on est obligé d'aller tout de suite au large et ce qui peut engendrer effectivement des rencontres fortuites. Le foil, c'est quelque chose de pas du tout stable et dès qu'on va toucher un poisson, dès qu'on va toucher ne serait-ce qu'une algue, on peut tomber de sa planche. Donc c'est très rapide et on tombe à de nombreuses reprises.
Une autopsie a été ordonnée par le parquet, notamment pour identifier l'espèce de squale qui serait responsable de l'attaque.
Venons-en maintenant justement à la météo. Alors qu'un mauvais temps généralisé s'installe sur le territoire, en cause un axe dépressionnaire qui s'étire en mer de corail. Il devrait toucher la Nouvelle-Calédonie pendant encore plusieurs jours, Léana Colombo.
Le nord et l'est sont les régions les plus concernées par ces précipitations. Météo France Nouvelle-Calédonie a émis une vigilance orange forte pluie orage sur Belep et toute la Grande Terre, excepté Nouméa, les Loyautés et l'île des Pins qui sont en vigilance jaune. Le temps devrait rester maussade avec souvent de fortes précipitations et localement des orages. Myrène Chouy-Rabide est chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
On a un axe dépressionnaire sur la mer de Corail avec un petit minimum qui est en train de se former du côté de Surprise. Ce minimum va stationner là avant de se décaler vers l'ouest demain. Donc en attendant, il va maintenir du mauvais temps sur la Calédonie. Alors ce matin, on a connu une relative accalmie, mais il ne faut pas se laisser avoir parce que cet après-midi, ça va se réactiver. Les pluies vont redevenir fréquentes, elles vont être souvent fortes avec une activité orageuse à surveiller. Alors a priori, les cumuls les plus forts vont avoir lieu sur la côte est, les Loyautés aux pointes nord et sud. Il y aura également de fortes averses attendues sur le relief. Du coup, ça va venir alimenter les cours d'eau. Et même si sur la côte ouest, les pluies peuvent sembler peu importantes, on n'est pas à l'abri de voir les criques et les cours d'eau débordés.
De fortes précipitations qui sont attendues notamment dans le nord, l'est et les Loyautés. Les cumuls pourraient atteindre entre 100 et 150 mm au cours de la journée et localement dépasser les 200 mm en l'espace de 24 heures. Des cumuls qui viennent s'ajouter aux récentes précipitations déjà bien marquées ces derniers jours.
On a eu entre 50 à 70 mm, essentiellement situés sur la côte est et sur l'Ifou. On a eu du côté de Winné, en 12 heures, on a relevé 98 mm. Bon, on est autour des 70 à 80 mm en 12 heures. C'est resté de manière localisée sur la côte est. Ce qu'on peut dire aussi, ces valeurs ne sont pas particulièrement exceptionnelles au niveau durée de retour. Par contre, il faut rester vigilant parce que c'est un épisode qui va durer. En plus, ça vient se rajouter aux pluies qu'on a connues la semaine dernière. Donc, les sols sont saturés, il faut rester vigilant.
Myrène Chouy-Rabide, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie. En plus de ces précipitations, le vent soufflera et se renforcera au cours de la journée jusqu'à atteindre 20 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins. Le soleil, quant à lui, se fera encore désirer quelques jours et devrait revenir de manière très temporaire puisqu'un minimum dépressionnaire se creuse progressivement à proximité du Vanuatu et pourrait dégrader les conditions météo pendant le week-end.
Il est 11h43, la première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie. Nous parlerons aussi de la présence calédonienne au Salon de l'agriculture à Paris. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Nouvelle-Calédonie remarquée au Salon de l'agriculture à Paris. Le président de la République s'est rendu au pavillon des Outre-mer où se trouve le village du Pacifique qui regroupe la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Guylain de Coudenove, le directeur de la Chambre d'agriculture et de la pêche, était notre invité du matin. Il était en direct depuis Paris.
C'était indispensable qu'on y soit, hein, parce que le Salon d'agriculture, c'est une vitrine de l'agriculture internationale, j'allais dire. Et donc cet événement, ce moment, il était important qu'on y soit présent pour représenter nos producteurs, pour représenter ce qu'on sait faire et pour montrer aussi nos initiatives qu'on a ensemble avec nos collègues du Pacifique. Hein, vous savez que sur cette édition, on est là au sein du village du Pacifique. Donc c'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière et qui fonctionne bien parce qu'on s'y retrouve avec les trois territoires, Polynésie, Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie. Et on est là pour présenter les produits calédoniens, et à travers les produits calédoniens, c'est nos producteurs, nos pêcheurs qu'on représente et tout leur travail qu'on représente. Cette cohérence au sein de ce village du Pacifique, elle est importante et elle démontre tous les enjeux qu'on a, des enjeux communs au sein du Pacifique, mais aussi un véritable enjeu de celui de pouvoir communiquer, de pouvoir transférer des choses aussi auprès des autres Outre-mer et au niveau de l'Hexagone. Donc voilà, il y a des enjeux à la fois techniques et à la fois économiques qui sont très importants.
Ouais, parmi les temps forts, la participation des producteurs calédoniens au concours général agricole, une participation qui est plus qu'une simple récompense, souligne Guylaine Coudenove.
C'est une reconnaissance énorme, ne serait-ce que d'avoir des produits qui sont exposés au Salon de l'Agriculture. C'est déjà une reconnaissance de pouvoir les amener jusqu'à Paris, de pouvoir les faire déguster, de pouvoir en parler, de pouvoir montrer quel est le travail des agriculteurs derrière. Parce que c'est pas que le produit, tout ce qu'on porte, c'est toute l'importance du travail qui est réalisé. Et donc, aller jusqu'à un concours général, être médaillé, c'est une reconnaissance. Et qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie de s'investir, qui donne envie de montrer aussi qu'on a un vrai potentiel en commercial, en termes de débouchés sur des marchés export. Donc voilà, c'est de la perspective et ça, c'est de l'ambition. Et je crois qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a besoin de montrer que nos filières, elles sont ambitieuses et qu'elles arrivent à être attractives et à porter des messages forts pour participer à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout ça, c'est toute cette dynamique qu'on emporte avec nous au salon et qui est incroyable.
Les producteurs calédoniens sont donc installés sur le village du Pacifique qui n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu d'échange et de réflexion.
Tout au long de la semaine sur le village du Pacifique, on y met du contenu. C'est-à-dire que on n'est pas là pour le folklore, on est là pour mettre du contenu, de la matière et montrer tout ce qu'on fait. Donc on organise des conférences à la Fédération des Chambres, on fait des zooms sur les filières, c'est-à-dire qu'on va expliquer quelles sont les filières, où on va. Et à chacun de ces moments, nous, on va inviter nos partenaires. C'est-à-dire qu'on va inviter nos partenaires des Outre-mer, on va inviter nos partenaires des instituts techniques, on va inviter des professionnels. Et donc, effectivement, on fait du réseau. Ça permet aussi d'avoir une vraie vision sur le développement de l'agriculture et de comprendre où on est en Nouvelle-Calédonie et où on va. Ce salon, c'est aussi du travail technique et du travail institutionnel. C'est vrai qu'on fait de la relation avec les ministères. Demain matin, on fait une conférence à l'ODEADOM, donc c'est l'organisme qui soutient les agriculteurs de l'Outre-mer. On y fait une conférence pour montrer à quel point le Pacifique est connecté aux autres Outre-mer et doit être connecté, de plus en plus connecté sur des thématiques très précises. Donc, on est visible, on est entendu, on est attendu également. C'est ça cette ambition, c'est d'y mettre beaucoup de matière et d'aller de l'avant sur tous ces sujets.
Guylain de Coudenove, le directeur de la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui était donc notre invité en direct de Paris depuis ce matin. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus sur ce salon de l'agriculture.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Dans la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche a-t-elle eu raison de maintenir un déplacement au Salon de l'Agriculture à Paris? Si vous pensez qu'elle a eu raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, et c'est aujourd'hui que la province sud lance officiellement son dispositif Sud Relance. Il est crédité d'1 milliard de francs pour soutenir la reprise économique. C'est un dispositif qui prend la forme d'un prêt participatif destiné à soutenir la reprise, la consolidation et le développement des TPE et PME. Financement accordé sans exigence de garantie avec un taux inférieur à celui du marché. Sud Relance peut notamment être utilisé pour renforcer la trésorerie ou financer les investissements immatériels. Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site internet de la province. La réforme du parcours optique devrait être prochainement étudiée au CESE. La pétition portée par le syndicat des opticiens lunetiers de Nouvelle-Calédonie a franchi le cap des 400 signatures nécessaires à son examen par le Conseil économique, social et environnemental. Une mobilisation qui traduit l'inquiétude et l'engagement des Calédoniens face aux difficultés d'accès aux soins visuels. Le SOLNC rappelle que les signatures restent ouvertes jusqu'au 23 mars et que chaque soutien supplémentaire renforce la portée de cette démarche. Fin de citation. Et puis toujours en bref, le lancement d'une nouvelle campagne de l'Agence sanitaire et sociale. Elle est destinée à sensibiliser sur l'obésité et encourager la prévention précoce. Le 4 mars prochain, journée mondiale de l'obésité, l'Agence sanitaire et sociale sera présente à l'Hyper-U de Païta pour sensibiliser le public sur cette maladie. À 11h50, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole. Elle est dominée par les conséquences diplomatiques de la mort de Quentin. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole avec Jean-François Baudin.
Oui, avec les suites de la mort de Quentin, ce militant identitaire battu à mort il y a 10 jours à Lyon. L'enquête a conduit à l'interpellation de 9 personnes. 7 d'entre elles ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Mais cette affaire a des répercussions diplomatiques et crée des tensions entre Paris et Washington. Tout est parti d'une note du bureau américain du contre-terrorisme qui affirme surveiller l'extrémisme violent de la gauche en France. Propos relayés le lendemain par l'ambassadeur de France à Paris, Charles Kochner. Colère de la diplomatie française, le Quai d'Orsay a convoqué le diplomate américain et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, parle même de manipulation.
Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française à des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire.
L'international réactionnaire, des propos qui visent Donald Trump, mais aussi Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui avait aussi évoqué cette affaire. Affaire qui continue d'être au cœur des échanges politiques de ces derniers jours. Et parmi les 7 personnes mises en examen figurent 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud, le fondateur de la Jeune Garde, ce mouvement d'ultra-gauche dont la proximité avec LFI est désormais avérée. De nombreuses voix demandent à la gauche de clarifier sa position vis-à-vis de ces groupes extrêmes. C'est le cas d'Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes.
Je lui dis d'un côté au camp de gauche qui veut être à nouveau une gauche républicaine et de gouvernement, est-ce que enfin vous allez de manière définitive rompre avec la France insoumise? J'entends ces derniers jours des voix qui disent l'inverse.
Ah oui,
des voix qui disent l'inverse, qui disent finalement, s'il y a un risque, on peut reconsidérer des alliances, on peut fusionner des listes, on peut se désister. Non. Si c'est une question de valeur et une question de principe, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison à un moment de remettre en cause ces principes-là. Et je le dis aussi au Rassemblement National, à Jordan Bardella, il a parlé de cordon sanitaire avec LFI, qu'il le montre aussi au moment des élections municipales. Pourquoi maintiendrait-il des candidats dans des villes où ils savent que le RN n'a aucune chance de gagner ?
Des propos d'Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Elle est l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, une émission, vous le savez, que vous pourrez retrouver ce soir sur Radio Rythme Bleu, juste après notre journal de 17h45. Donald Trump a-t-il échappé à un nouvel attentat ? Un jeune homme de 21 ans s'est introduit dans la propriété floridienne du président américain à Mar-a-Lago. Donald Trump n'était pas sur place, mais les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Le récit de Mathis Lang pour Europe 1.
Tout s'est passé à 1h30 du matin. Un homme s'introduit dans le périmètre de la résidence du président américain, pourtant très surveillé. Un officier ainsi que 2 agents des services secrets s'approchent alors de l'intrus. La suite, c'est le shérif du comté de Palm Beach qui le raconte lors d'une conférence de presse tout à l'heure.
Ils ont été confrontés à un homme blanc qui brandissait un bidon d'essence et une arme à feu. Ils lui ont ordonné de lâcher ces 2 objets. Au moment où il a posé son bidon d'essence, il a levé l'arme en position de tir. À ce moment-là, l'officier et les 2 agents du Secret Service ont ouvert le feu pour neutraliser la menace. Il est mort sur place.
Concernant le profil de l'individu, on sait qu'il s'agit d'Austin Tucker Martin, jeune âgé de 21 ans. Sa famille avait lancé un avis de recherche la veille car il avait disparu. Pas de détails en tout cas sur ses revendications. Aucun des agents n'a été blessé. Donald Trump, lui, n'a pas été mis en danger pour la simple et bonne raison qu'il ne se trouvait pas sur place. Il était à Washington. Le président a pour rappel fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne présidentielle. En 2024, touché à l'oreille par un tir lors d'un meeting en Pennsylvanie. Et 2 mois plus tard, une autre tentative sur un parcours de golf en Floride.
Actualité à l'étranger, c'est aussi le régime iranien de nouveau sous la pression populaire. Les manifestations hostiles au pouvoir des mollahs ont repris. Les précédentes vagues de contestation avaient été durement réprimées et causaient la mort d'au moins 30 000 personnes depuis début février. Les USA maintiennent leur menace d'intervention militaire. Et puis le 24 février, demain, cela fera 4 ans, jour pour jour, que l'armée russe a lancé son offensive militaire à l'est de l'Ukraine. Une guerre qui n'est toujours pas terminée malgré les nombreuses discussions et tractations. 4 ans de guerre et un quotidien qui reste compliqué pour les Ukrainiens, comme ces 2 femmes jointes par Wilfried de Villers pour Europe 1.
Il n'y a pas d'Ukrainiens qui n'ont pas perdu quelqu'un, qui ne connaissent pas la mort à cause de la guerre.
4 ans de conflits, de deuil, de bombardements et de privations. Ola, 28 ans, s'est bien habituée à vivre avec la guerre, mais la douleur du quotidien est toujours là.
En termes psychologiques, parce que tous les jours on lit des actualités, tous les jours on voit des nécrologues, des portraits en noir et blanc, ça influence énormément notre santé mentale. mentale. Physiquement, c'est difficile. Il y a des frappes, des coupures d'électricité.
Les derniers bombardements russes ont plongé de nombreux quartiers de Kiev dans le noir, privant les habitants de chauffage en plein cœur d'un hiver particulièrement rude. Si la guerre épuise, les Ukrainiens restent tout de même combatifs, affirme Anna. Pour cette habitante de Lviv, hors de question d'une capitulation aux conditions posées par Moscou.
On ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas céder les territoires. On a perdu trop de vies. Comment peut-on regarder dans les yeux des mamans, des femmes, des soldats qui sont morts pour protéger cette terre? On est fatigué, c'est sûr. Bien sûr qu'on voudrait tellement arrêter les morts, arrêter les bombardements, mais pas par ce prix-là.
Anna dit rêver de paix, mais d'une paix qui respecte la dignité des Ukrainiens et offre un véritable avenir à son fils de 2 mois.
Il est 11h56, la fin de ce journal, mais nous le prolongeons dans un instant avec le magazine des sports du lundi. On se retrouve dans un instant.